songo songo dure atili mwana ofanama.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du jeudi 23 janvier 2023. En République démocratique du Congo, l'armée et les rebelles du M23 mènent des combats autour de Goma.
Il y a une défaillance qui est claire de la part de l'ONU et de la part surtout des puissances qui sont à l'intérieur du Conseil de sécurité.
Le politologue Albert Ruda Simbuara nous parlera dans la partie magazine des derniers développements du conflit dans l'est de la RDC. Nous écouterons également Didier Kitumaini, député national de la RDC. Au Gabon, l'élection présidentielle est fixée au 12 avril. La Russie se dit prête à un dialogue dans le respect mutuel avec Donald Trump. Le président américain demande à l'Arabie Saoudite et l'OPEP de baisser le coût du pétrole dans le cadre du Forum économique mondial de Davos. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco. On commence par le journal. Le M23 continue de gagner du terrain dans l'est de la RDC. Il s'est emparé d'un nouveau pan de territoire et resserre son étau sur Goma, la capitale du Nord Kivu, de plus d'un million d'habitants. Les précisions de Nathalie Barge.
Les affrontements entre le M23 et les forces congolaises s'intensifient, provoquant un afflux de déplacés. Les combats se rapprochent à une dizaine de kilomètres de la capitale provinciale. Le M23 est présent depuis près de 2 ans sur des collines aux alentours de Goma. Les forces congolaises ont établi des lignes de défense autour de la ville, mais les observateurs doutent qu'elles puissent résister à une éventuelle offensive. Hier, le groupe armé, accusé d'être soutenu militairement par le Rwanda, a pris la ville de Minova, à 50 km au sud-ouest de Goma, sur l'autre rive du lac Kivu. L'armée congolaise n'a pu récupérer que très peu de territoires perdus ces derniers mois. Selon les observateurs, elle se trouve obligée de concentrer la plupart de ses ressources dans certaines zones au plan local pour pouvoir reprendre une localité. Ils estiment par ailleurs que les troupes de la SADC présentes dans le Nord Kivu sont peu actives. Ces forces déployées en soutien des FARDC sont composées de soldats d'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Malawi. Le M23 avait pris le contrôle de Goma en novembre 2012. 11 jours plus tard, l'armée avait repris la ville avec le soutien de la MONUSCO et grâce à la pression diplomatique de la communauté internationale sur le Rwanda. En décembre dernier, une rencontre entre les présidents congolais, Félix Tshisekedi et rwandais, Paul Kagame, dans le cadre d'un processus de paix impulsé par l'Union africaine, a été annulée, faute d'entente sur les conditions d'un accord.
L'élection présidentielle au Gabon se tiendra le 12 avril, a annoncé aujourd'hui le porte-parole du gouvernement. C'est une étape décisive vers le retour à un régime civil promis par les militaires au pouvoir depuis le coup d'État de 2023 qui a chassé la dynastie Bongo. Nani Talani.
Le collège électoral est convoqué le samedi 12 avril 2025. Le scrutin se déroulera de 7h00 à 18h00, conformément à la réglementation en vigueur, a annoncé Séraphin Akouré Dava, porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres. Jusqu'à présent, le calendrier de la transition a été rigoureusement suivi. Le gouvernement a promis de réviser les listes électorales ce mois-ci, 3 mois plus tôt que prévu. Lundi, le Parlement a adopté un nouveau code électoral autorisant les militaires à se présenter aux élections sous certaines conditions. Les critiques craignent que cette décision permette au général Brice Oligui Nguema, qui a pris le pouvoir après le putsch contre Ali Bongo en 2023, de se présenter à la présidentielle et de rester au pouvoir. Bien qu'il ait promis de restituer le pouvoir aux civils, après 2 ans de transition, Oligui Nguema laisse transparaître ses ambitions présidentielles, selon les médias locaux. En novembre dernier, le Gabon a voté une nouvelle constitution qui, entre autres, accorde une amnistie aux personnes impliquées dans les événements ayant conduit à l'arrivée des militaires au pouvoir.
Le Mali, le Niger et le Burkina Faso mettront en circulation leur propre passeport commun le 29 janvier, date de leur sortie de la communauté des États ouest-africains, la CEDEAO, dont ils ont fait sécession, a annoncé aujourd'hui la présidence de leur alliance. Les anciens passeports demeurent valables toutefois jusqu'à leur date d'expiration, précise le communiqué de l'alliance en faisant référence au passeport de la CEDEAO. Au Sénégal, le président Bassirou Claudio Maïfaï a demandé de renforcer d'urgence la sécurité des sites touristiques 4 jours après le braquage armé d'un des plus grands hôtels du pays, selon le communiqué du Conseil des ministres. Le président Diomaye Faye dit vouloir faire du tourisme un secteur stratégique dans le plan de développement de son pays. L'armée soudanaise et les forces de soutien rapide s'accusent mutuellement d'avoir incendié une grande raffinerie de pétrole située au nord de Khartoum. L'armée affirme que les FSA ont délibérément détruit l'infrastructure après avoir échoué à prendre le contrôle du pays, tandis que les FSA accusent l'armée d'avoir bombardé la raffinerie avec des bombes barils, qualifiant l'acte de crime de guerre. Le conflit au Soudan, qui dure depuis plus d'un an, a causé des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 12 millions de personnes et engendré une crise humanitaire sans précédent. En Tanzanie, une nouvelle flambée de virus de Marburg a causé la mort de 9 personnes sur 10 cas confirmés selon l'Africa CDC. La région de Kagera, à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda, avait déjà connu une épidémie en mars 2023, causant 6 décès sur 9 cas. Cette flambée survient peu après la fin d'une épidémie au Rwanda qui avait fait 15 morts en 3 mois selon l'OMS.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Venez produire en Amérique où vous devrez payer des droits de douane, a lancé aujourd'hui le président américain Donald Trump au patron réuni au Forum économique mondial de Davos. Il a aussi demandé à l'Arabie saoudite et à l'OPEP de baisser le coût du pétrole. Jacques Aristide.
Mon message pour toutes les entreprises dans le monde est simple. Venez fabriquer vos produits en Amérique et vous bénéficierez des impôts parmi les plus bas au monde. Mais si vous ne les produisez pas aux États-Unis, ce qui est votre droit, alors très simplement, vous devrez payer des droits de douane, a déclaré ce jeudi le président Donald Trump lors d'une allocution en ligne devant un parterre de grands patrons à l'occasion du Forum économique mondial de Davos. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche a appelé l'Arabie Saoudite et les pays de l'OPEP à baisser le coût du pétrole. « Je suis d'ailleurs franchement surpris qu'il ne l'ait pas fait avant l'élection. Ne pas le faire n'était pas franchement une preuve d'amour. Si le prix était plus bas, la guerre en Ukraine serait aussitôt terminée », a ajouté Donald Trump, qui exige également que les taux d'intérêt baissent immédiatement, alors que la Fed, la banque centrale américaine, doit se réunir mardi prochain et devrait laisser ses taux inchangés. Avec les prix du pétrole qui vont baisser, je réclame que les taux d'intérêt baissent immédiatement. Et de la même manière, ils devraient baisser partout dans le monde. Les taux d'intérêt devraient nous suivre partout, a insisté le président Trump.
Dans le Texas, un homme barricadé dans un appartement à San Antonio a blessé par balle 7 policiers avant d'être retrouvés morts, ont rapporté les autorités. Les forces de l'ordre étaient intervenues pour un signalement de suicide. L'homme a ouvert le feu, blessant un premier agent, suivi de 6 autres. 3 policiers blessés ont été hospitalisés dans un état stable. Le Kremlin a indiqué ce jeudi être disposé à entamer un dialogue dans le respect mutuel avec le président américain Donald Trump. Ce dernier, qui a menacé de nouvelles sanctions contre la Russie, exige un accord immédiat entre Moscou et l'Ukraine pour mettre fin au conflit. Éric Manirakiza.
Le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a précisé que les premières déclarations de Trump n'ont comporté rien de nouveau sur le sujet. Nous restons prêts au dialogue, à un dialogue sur un pied d'égalité et dans le respect mutuel, a néanmoins assuré le porte-parole russe, précisant que le Kremlin attend toujours des signaux de la Maison-Blanche. Donald Trump, tout en se montrant ouvert à des entretiens avec président Poutine, n'a cependant pas fixé de date. Vladimir Poutine a lui aussi exprimé sa disposition à une entrevue ou une discussion avec son homologue américain. Mais Trump, mercredi, a averti que l'absence d'un accord rapide entraînerait des sanctions plus sévères sur les exportations russes. Lors de son investiture lundi, Donald Trump a accusé Vladimir Poutine de détruire la Russie en ne trouvant pas un règlement au conflit. Du côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky a posé une condition essentielle aux négociations, des garanties réelles de la part des alliés de Kiev. Alors que les troupes russes poursuivent leur avancée, l'Ukraine en position défavorable est inquiète d'une pression accrue pour négocier, craint d'être contrainte à des concessions territoriales.
Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a annoncé aujourd'hui requérir la délivrance de mandats d'arrêt à l'encontre des dirigeants du régime des talibans en Afghanistan, accusés de violations systématiques des droits fondamentaux des filles et des femmes du pays. Il existe des motifs raisonnables permettant de croire que la responsabilité pénale du chef suprême des talibans, Hébatullah Akhundzada, et du président de la Cour suprême de l'Émirat islamique d'Afghanistan, Abdul Hakim Haqqani, est engagé pour le crime contre l'humanité de persécution liée au genre, déclare Karim Khan dans une déclaration diffusée sur le site de la CPI. Et puis, en Corée du Sud, les enquêteurs ont recommandé ce jeudi l'inculpation pour rébellion et abus de pouvoir du président Yoon Suk-yeol, détenu et suspendu de ses fonctions. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Alexandrine Ollignon.
Le port marocain de Tanger, Med, a déclaré mercredi qu'il maintenait sa position de premier port de la Méditerranée en traitant 10,24 millions de conteneurs, soit une hausse de 18,8% par rapport à l'année précédente. Selon l'autorité portuaire, le nombre de véhicules exportés par le port a augmenté de 4% pour atteindre 600 872, principalement produits par les usines Renault et Stellantis dans le pays. Le projet de GNL au Mozambique de Total Energy d'un montant de 20 milliards de dollars ne sera pas opérationnel d'ici 2029 comme espéré. Total Energy avait précédemment déclaré qu'elle espérait lever la force majeure et relancer la construction du projet de gaz naturel liquéfié, longtemps retardé d'ici la fin de 2024, ce qui lui permettrait d'entrer en service d'ici 2029. Le conglomérat de crypto-mining et de blockchain Phoenix Group, coté à Abu Dhabi, a conclu un accord d'achat d'électricité de 80 MW en Éthiopie. L'entreprise n'a pas fourni de détails sur l'emplacement de l'installation ni sur la taille de l'accord.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger. Bonsoir à tous.
Omar Marmouche signe à Manchester City.
Oui, Manchester City a recruté l'Égyptien, actuel deuxième meilleur buteur du championnat d'Allemagne avec l'Eintracht Francfort, 15 buts, soit un de moins que Harry Kane et ses 9 passes décisives. Omar Marmoush s'est engagé pour 4 saisons et demie, a précisé Manchester City, soit jusqu'à l'été 2029. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé. Selon les presses allemandes et britanniques, il se chiffre entre 70 et 80 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de bonus. Il s'agit de la troisième recrue hivernale du club mancunien, après les défenseurs centraux ouzbek Abdou Kodir Kousanov et brésilien Victor Raiz, l'attaquant de 25 ans arrive en doublure ou comme concurrent d'Erling Haaland, qui a prolongé la semaine dernière son bail avec les Citizens jusqu'à l'été 2034.
Ici en NBA, record pour Jalen Alexander.
Le meneur d'Oklahoma City a inscrit 54 points pour porter le Thunder au succès contre le Utah Jazz, 123 à 114. Chai Alexander-Gilgeous a ajouté 8 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres. Le Canadien de 26 ans, leader NBA au scoring avec Giannis Antetokounmpo, 31,5 points de moyenne, fait figure de favori pour être désigné MVP en fin de saison. Et Oklahoma City, premier à l'Ouest, est devenu un candidat au titre. De leur côté, les Houston Rockets, deuxième à l'Ouest, se sont imposés 109 à 108 dans un choc de haut tableau face aux Cleveland Cavaliers, premier à l'Est. Les Memphis Grizzlies ont, eux, maintenu la pression au classement sur Houston en s'imposant face aux Charlotte Hornets, 132 à 120. À Dallas, Minnesota a peiné pour l'emporter sur le fil sur le parquet des Mavs, 115 à 114. Dans le derby nord-californien, les Sacramento Kings ont dominé les Golden State Warriors, 123 à 117. Le champion en titre Boston a gagné 117 à 113 après prolongation contre les Los Angeles Clippers.
NBA toujours avec cette confrontation entre San Antonio et Indiana ce soir à Paris.
Spurs contre Pacers, mais surtout Victor Wembanyama. L'intérieur français de San Antonio est revenu à Bercy en star dans le match qui l'opposera à Indiana. On sait que nous sommes à Paris, Wemby, les Spurs, tout le monde va être de leur côté. Mais nous sommes prêts à déclarer l'intérieur des Pacers, le Camerounais Pascal Siakam. Les Pacers veulent enchaîner après 2 victoires de rang, tandis que San Antonio reste sur 3 revers de suite. Et malgré un contexte trop enthousiaste, Victor Wembanyama estime que gagner ce soir et samedi en France est important comme tous les matchs.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. L'armée congolaise a reconnu une percée mardi du M23 dans l'est de la RDC. Ce groupe armé qui combat le gouvernement de Kinshasa dans la région avec le soutien du Rwanda et son armée s'est emparé de Minova, un point de ravitaillement vers Goma. Pour un éclairage, Eric Manirakiza, adjoint à Kigali au Rwanda, l'analyste Albert Rudatsimburwa.
De toute façon, si on est dans une situation où on ne peut pas avoir le dessus par la force, eh bien, la chose la plus normale, c'est de négocier. En fait, on n'a jamais vu de négociation à partir de Kinshasa avec le M23.
Il y a une initiative qui est pilotée par le président angolais. Le Rwanda est supposé négocier avec la RDC, donc Kigali avec Kinshasa. Est-ce que les deux pays ne sont pas en mesure de mettre fin à ce conflit?
L'invitation qui a été donnée au Rwanda, disait bien que Kinshasa avait accepté d'aller négocier avec le M23. Et à la veille, je dirais, dans la réunion de préparation de ce sommet, le Congo a continué à refuser de dire qu'ils allaient négocier avec le M23. Donc, il n'y avait plus lieu d'avoir un sommet des chefs d'État puisqu'il n'y avait plus de substance. Donc, simplement, le fait de faire une rencontre, ça, c'était un sommet qui aurait été inutile. Donc, on s'est retrouvé dans cette impasse. Mais on a vu cette progression. Le M23, ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont contourné le Goma, ils ont pris Minova. Au-delà des FDLR, il y a tous les groupes Maïmaï qui ont été rebaptisés Wazalendo. Et il y a maintenant aussi, en plus, les troupes de l'armée burundaise qui sont venues en renfort. Toutes ces troupes-là ont été chaque fois battues par le M23. Cette guerre qui est, je le répète, entre Congolais. Chaque fois vouloir entraîner le Rwanda là-dedans, c'est vouloir fuir le vrai problème. Quelle est la finalité de Kinshasa là-dedans?
Mais Kinshasa accuse Kigali de soutenir militairement le M23, de lui fournir même des troupes. Un rapport d'experts de l'ONU indique que Kigali a de facto pris le contrôle et la direction des opérations du M23 et que s'il faut arrêter la guerre, c'est au bon vouloir de Kigali.
Mais écoutez, quelle est encore en fait la crédibilité de ces groupes d'experts? Ce sont des informations qu'ils tirent de où? De leur propre agence, la MONUSCO. Mais c'est cette MONUSCO qui est remise en cause en fait, dans le sens où on a une opération militaire de maintien de la paix, je veux dire depuis 25 années. Aussi, on a des rapports de groupes d'experts. Une présence comme ça de 25 années sans qu'il y ait de résultats. Parce qu'au départ, en 1999, quand la MONUSCO arrive au Congo, il y a 4 groupes parmi 4. En 25 ans, il y en a 280, malgré leur présence. Et les FDLR, qui sont quand même une milice de génocidaires, ils sont connus, ils n'ont fait que continuer à exister. Et ça, à la porte du Rwanda. Donc, il y a une défaillance qui est claire de la part de l'ONU et de la part surtout des puissances qui sont à l'intérieur du Conseil de sécurité qui continuent à, en fait, à provisionner cette présence, cette défaillance.
L'analyste Albert Rudatsimburwa, joint à Kigali au Rwanda. Des combats se sont poursuivis aujourd'hui à une vingtaine de kilomètres de Goma entre les rebelles et l'armée congolaise. Les populations continuent à fuir depuis que les rebelles ont pris plusieurs sites, dont la ville de Minova, dans le territoire de Kalehe, dans le sud Kivu. Eddie Sangwa, adjoint à Kalehe, justement, Didier Kitumaini, il est député national de la RDC.
Depuis le début de cette semaine, la fois passée, il y a eu affrontement dans une cité qu'on appelle Lumbishi. Des jours plus tard, les affrontements ont poursuivi. L'M23 a récupéré la cité de Minova depuis l'avant-hier. Et aujourd'hui, la population s'est déplacée dans différents villages du territoire de Calais et à Ijui. Donc voilà un peu la situation humanitaire de la population. La cité de Minova est occupée par les éléments de M23. Mais aujourd'hui, il y a eu un affrontement. Les FARDC a riposté au niveau de Minova. On a utilisé les hélicoptères de guerre à Minova et à Sake. Ce sont les FARDC qui contrôlent la cité de Sake maintenant là. La cité cité de Mino va être occupée toujours par les éléments M23. La situation de ce qui est aujourd'hui, les rebelles M23 ont tenté d'éloger les FARDC dans la cité de Sake, mais ça n'a pas tenu. Les FARDC ont utilisé les avions, les hélicoptères, les Sikoy 24. En tout cas, les éléments où les rebelles M23 ont été saccagés, ont été neutralisés dans cette cité. Et donc, ils n'ont pas réussi vraiment à récupérer la cité de Sake. Donc, ce sont les FARDC qui occupent cette cité de Sake.
Voilà, mais qu'est-ce qu'on peut dire
La situation de
Sake n'est pas très très loin de Gouma, à Minova aussi. Peut-on dire que la ville de Gouma est sérieusement menacée maintenant parce qu'elle semble être entourée?
On ne peut pas oublier aussi qu'il y a des propagandes de l'ennemi. Hein. Il y a ceux qui font les gens de l'ennemi, propageant des fausses informations en disant non, l'ennemi a entouré la ville de Goma et pourtant c'est non. Donc la ville de Goma est utilisée par l'OVA militaire FARDC et les Ouazalendo. Donc ils ont seulement tenté d'occuper la cité de Sake, mais en tout cas ça n'a pas tenu. Ce sont des FARDC qui occupent des Sake à l'heure où je vous parle. Donc l'argent FARDC. Les gens qui disent que Goma est entouré par M23, ça c'est du mensonge. Ce sont des fausses informations des ennemis de la RDC.
Comment interpréter ces offensives autour de Goma? Il y a Sake, il y a Minova, il y a Masisi qui sont tombés entre les mains des rebelles. Est-ce que ce n'est pas pour forcer la main au gouvernement à négocier? Est-ce que vous pensez que le gouvernement va peut-être ouvrir une porte pour parler, discuter avec les M23?
À l'heure qu'il est, le gouvernement est encore dans une position de force. Je ne sais pas à quoi le gouvernement peut accepter les dialogues qu'on a refusé depuis longtemps. Parce que vous savez que dans ces dialogues où il y a des infiltrations des Rwandais dans l'armée ou dans les services de sécurité au niveau du gouvernement, les chefs de l'État, son excellent Félix Tshisekedi Tshilombo, avait refusé depuis longtemps qu'il n'allait pas accepter de dialoguer avec les rebelles M23. Et donc, le gouvernement reste toujours dans cette logique.
Didier Kitumaini, parlementaire de la RDC.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Les aidants familiaux jouent un rôle essentiel dans la vie des patients. En Zambie, comme dans de nombreux pays africains, ils sont généralement des membres de la famille et des études révèlent qu'ils sont souvent négligés et qu'ils souffrent d'épuisement et de solitude. Suivez le reportage de Cathy Short à Lusaka, en Zambie, relaté par Thierry Kaori.
Selon le ministère zambien de la Santé, la prestation de soins professionnels n'est qu'à ses débuts. Pour l'instant, elle reste réservée aux personnes aisées dans ce pays d'Afrique australe. Un soignant professionnel coûte environ 4 000 $ américains par mois, ce qui est beaucoup trop cher pour la plupart des citoyens. La majeure partie des Zambiens comptent sur les membres de leur famille pour s'occuper de leurs proches malades. La plupart d'entre eux n'ont pas de formation professionnelle. Kélis Mouchota, un habitant de Lusaka, s'est occupé de sa mère diagnostiquée d'un cancer de sein de stade 3 en 2019. Mouchota, qui est le fils aîné et le soutien de famille, a dû accueillir sa mère chez lui pour mieux s'occuper d'elle. Il a pris en charge les coûts de ses soins jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Pour réunir les fonds nécessaires, Mouchota a dû accepter 2 emplois et dit qu'il dormait à peine la nuit.
Notre système ne donne pas d'informations préalables sur ce que l'on peut attendre du processus, sur son coût, sur l'étape suivante. Donc, on ne peut jamais connaître le coût de l'ensemble du processus. Il faut chercher l'argent quand on arrive à l'étape suivante. Et je pense que c'était très difficile et que cela a causé beaucoup de stress pour moi, mes frères et sœurs et quelques autres personnes qui étaient là pour nous aider.
Hélène Moilet, qui est aussi la fille aînée, s'est occupée à tour de rôle de plusieurs mamans de sa famille. Récemment, elle s'est occupée de sa tante âgée de 96 ans, qui ne pouvait plus marcher ou faire quoi que ce soit par elle-même jusqu'à sa mort.
Si je me souviens bien, j'ai même arrêté de travailler parce que j'avais besoin de consacrer tout mon temps à m'occuper de ma tante. Nous avions quelques membres de la famille qui venaient de temps en temps, mais pas toujours. Mais je consacrais tout mon temps à prendre soin d'elle.
Happy Zulu est thérapeute au Revolto Hill Medical Center, un centre de conseil privé. Il explique que la plupart des aides-soignants ne cherchent pas à obtenir des conseils pour les aider à faire face aux exigences de leurs responsabilités.
Malheureusement, nous avons reçu très peu de personnes qui recherchent une thérapie en tant qu'aide-soignant, ce qui nous permet de sensibiliser les gens parce que dans la plupart des cas, ils ne pensent pas que ces personnes existent, mais ils savent qu'elles existent, ils ne pensent pas qu'ils ont besoin d'aide aussi. Mais regardez, ils souffrent de stress, ils souffrent d'épuisement professionnel, ils peuvent aussi souffrir de dépression.
Un rapport des Nations Unies de 2023 indique que le travail de soins est essentiel au fonctionnement des ménages et des sociétés, mais qu'il n'est pas souvent reconnu, rémunéré ou apprécié. Il ajoute qu'il faut faire davantage pour soutenir et reconnaître les contributions essentielles des aides familiaux aux soins de santé.
Suite à l'annonce par le président Donald Trump du retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, Washington devrait réduire le financement d'autres agences de l'ONU, comme le rapporte Patsy Widakuswara, chef du bureau de la Maison-Blanche. Il est peu probable que d'autres pays riches comblent le déficit. Le récit est de Michel Joseph.
Les temps sont durs pour les Nations Unies, car les États-Unis se retirent de certains de leurs engagements internationaux, y compris de leur adhésion à l'Organisation mondiale de la santé. Tariq Jassarevic, porte-parole de l'OMS.
C'était 18% du budget en 2023. Et comme je l'ai dit, les États-Unis sont le plus grand donateur.
Lundi, le premier jour de son mandat, le président Donald Trump a signé plusieurs décrets, dont un pour sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat.
Les États-Unis ne saboteront pas leurs propres industries pendant que la Chine pollue en toute impunité.
Les États-Unis sont le plus grand producteur mondial de combustibles fossiles à l'origine du réchauffement climatique. Ils sont également le plus grand contributeur financier de l'ONU. Lors de son audition de confirmation au Sénat mardi, la candidate de Trump au poste d'ambassadeur de l'ONU, Elise Stefanik, a déclaré que l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et le Programme alimentaire mondial sont des agences efficaces de l'ONU. Cependant, le financement d'autres organismes sera réduit, notamment l'UMRWA, l'agence qui aide les réfugiés palestiniens. Elise Stefanik, ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU.
L'argent de nos impôts ne devrait pas servir à soutenir des entités qui vont à l'encontre des intérêts américains, qui sont antisémites ou qui se livrent à la fraude, à la corruption ou au terrorisme.
Lorsque Trump a réduit le financement de nombreuses agences de l'ONU en 2017, au cours de son premier mandat, les pays de l'Union européenne ont augmenté leur soutien financier. Mais aujourd'hui, il se concentre sur les dépenses de défense pour aider l'Ukraine à repousser l'invasion de la Russie, en partie à cause du scepticisme de Trump à l'égard de l'aide à Kiev. Le président français Emmanuel Macron.
Après l'entrée en fonction de la nouvelle administration aux États-Unis, il appartient plus que jamais aux Européens, et donc à nos deux pays, de jouer tout leur rôle pour consolider une Europe unie, forte.
En attendant, il est peu probable que la Chine augmente sa contribution à l'ONU, dit Richard Gowan, directeur de l'International Crisis Group à l'ONU.
Les responsables chinois sont également réalistes. Leur pays est confronté à des défis économiques et ils n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser. Je crains donc qu'il n'y ait pas d'alternative claire de financement vers laquelle l'ONU pourrait se tourner.
C'est la deuxième fois que Trump retire les États-Unis de l'accord de Paris de 2015 qui vise à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel en réduisant les émissions de carbone. Les défenseurs de l'environnement ont protesté contre la décision de M. Trump. Lorsque le retrait prendra effet l'année prochaine, les États-Unis rejoindront l'Iran, la Libye et le Yémen en tant que seul pays de l'ONU à ne pas faire partie de l'accord sur le climat.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. La mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.